Très bien, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Sacha Loiseau. Sacha Loiseau est diplômé de l'école polytechnique. Il possède également un doctorat en astrophysique et en instrumentation optique. Il a débuté sa carrière au Centre national d'études spatiales, le CNES, à Toulouse, à l'Observatoire de Paris et au Jet Propulsion Laboratory, le JPL, qui est de la NASA à Pasadena aux États-Unis. En mai 2000, au tout début du XXIe siècle, il a fondé l'entreprise Monacea Technologies. Il en a été le directeur général depuis lors. Il a piloté le développement de la ligne de produits Cellvisio. Il a assemblé une équipe internationale de très haut niveau. Et il a levé plus de 32 millions d'euros auprès d'investisseurs spécialisés dans le domaine de la santé. En juillet 2011, il a introduit la société sur le New York Stock Exchange, Euronext de Paris, et levé 56 millions d'euros supplémentaires pour financer le déploiement commercial de l'entreprise. Il va donc nous présenter ce parcours scientifique et entrepreneurial exceptionnel à l'occasion donc de cette présentation intitulée « Des étoiles aux cellules de la recherche à l'entreprise ». Et j'ai oublié de mentionner également que Sacha Loiseau est co-responsable d'un des plans industriels voulus par le président de la République. Il s'agit du plan dispositifs médicaux.
Merci beaucoup, Nicolas, de cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous raconter brièvement cette histoire qui est résumée dans ce titre, des étoiles aux cellules et de la recherche à l'entreprise. Donc, une histoire qui, effectivement, m'a emmené de Paris à Pasadena, comme le disait Nicolas, ensuite à Hawaï, où j'ai passé beaucoup de temps à observer les étoiles du télescope Keck, qui est le plus grand télescope du monde, en tout cas à l'époque, et puis ensuite un retour à Paris. Alors justement, dans ce contexte, il y a quelque chose que Nicolas ne sait pas, c'est que c'est mon deuxième séminaire au Collège de France, et que le premier, je l'ai fait il y a presque 20 ans, dans ma vie précédente, la vie d'astrophysicien, invité par le professeur Antoine Labéry, qui est toujours le titulaire de la chaire d'astrophysique observationnelle. Donc je suis très content d'avoir maintenant ce deuxième séminaire. Qui sait ce que sera ma troisième vie si elle m'emmènera de nouveau au Collège de France dans un autre contexte. Alors, justement, comme le professeur Galmich vous a montré dans son brillant exposé, j'aimerais aussi vous poser un petit peu le décor et vous expliquer un peu quel est le contexte, finalement, de l'innovation médicale pour expliquer tout ce développement, puis ces chiffres impressionnants du nombre d'euros nécessaires pour amener une innovation médicale dans le monde d'aujourd'hui. Les progrès réalisés par la médecine depuis maintenant, disons, 20 ans, enfin, quand on prend les deux décennies, 80-2000, sont majeurs en termes d'amélioration, bien sûr, de l'espérance de vie, du taux de mortalité annuel, en règle générale, et puis, par exemple, du taux de handicap pour les personnes âgées. Là, ce sont des chiffres américains, mais qu'on peut transposer très facilement des chiffres européens, bien sûr, dans les pays développés. On pourrait difficilement imaginer aujourd'hui revenir à, par exemple, la chirurgie ouverte plutôt que la chirurgie minimalement invasive dont vous avez vu quelques exemples dans les deux exposés précédents, ou bien, par exemple, un pontage coronarien à la place de l'angioplastie, c'est-à-dire la pose de stent dans les artères coronaires ou d'autres artères, ou bien tout simplement à une souffrance permanente au lieu d'un remplacement d'articulation. Vous savez qu'on peut aujourd'hui remplacer complètement des articulations des hanches ou des genoux, par exemple. Donc c'est évident que l'innovation médicale a un impact majeur sur nos vies, et pourtant, cette innovation médicale est souvent très longue, très lente et très difficile à introduire aujourd'hui dans les systèmes de santé. Alors, pour aussi continuer à poser le décor, quelques chiffres clés français des technologies médicales. D'abord, avant de rentrer dans les chiffres, ce qui est intéressant dans le domaine des technologies médicales et des dispositifs médicaux, c'est qu'il y a une très très grande diversité de technologies et de produits. En fait, le dispositif médical, ça va du pansement, et il y a des pansements tout simples, mais il y a aussi des pansements très très technologiques, très très avancés, faits par exemple par une société française que vous voyez ici, et puis ça va jusqu'à, par exemple, un cœur artificiel qui n'est pas encore un produit, mais qui est en cours de développement aussi par une société française, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Carmat, et un jour, peut-être qu'il y aura un cœur artificiel total, implantable, bioprotéique comme celui-là. Et donc, c'est un peu les deux extrêmes du spectre des technologies médicales et et des dispositifs médicaux dont on peut disposer. En France, il y a 900 entreprises de technologie médicale, alors qu'il y en a 6000 aux États-Unis. Donc, vous savez que les États-Unis ne sont pas 7 fois plus grands que la France, en tout cas en population, et donc forcément, il y a un différentiel de ratio important. En France, on a créé à peu près 50 000 emplois directs dans ce domaine, alors qu'il y en a 450 000 aux États-Unis. Il y a 2 millions d'emplois indirects créés par ces sociétés aux États-Unis. En France aussi, ce qui est intéressant, c'est que 94% des entreprises dans ce domaine sont des petites entreprises, des PME, et 45% des très petites entreprises. Donc ça, c'est pour montrer que l'innovation médicale vient le plus souvent de très petites entreprises et non pas des grands groupes médicaux que l'on connaît tous, qui souvent, pour innover, vont plutôt racheter des petites entreprises qui ont développé des nouveaux produits. Alors, bizarrement, notre balance commerciale dans le domaine des technologies médicales est fortement déficitaire, presque 1 milliard d'euros, alors qu'elle est très excédentaire en Allemagne, en Suisse, et bien sûr aussi aux États-Unis, en Israël et dans d'autres pays. Et puis enfin, pour finir, un autre chiffre, c'est qu'en termes de propriété intellectuelle, nous avons à peu près 8000 brevets dans ce domaine en France, alors qu'il y en a 58 000 en Allemagne. Et pourtant, et c'est un bon contexte pour le rappeler, il y a en France des chercheurs de qualité absolument exceptionnelle, qui depuis plusieurs siècles montrent des travaux absolument fantastiques, des médecins qui sont tout aussi excellents, et puis des ingénieurs, des chercheurs, des gens qui ont des doctorats dans différents domaines et qui travaillent dans tous les domaines qui permettent normalement d'aboutir à ces innovations médicales. Comment ça se fait que nous n'arrivons pas à avoir des chiffres meilleurs que ça ? C'est une très bonne question à laquelle nous essayons de répondre justement dans le cadre de ce plan industriel que j'ai l'honneur de copiloter et dont Nicolas Yèche parlait. Donc justement, alors on a un contexte actuel français qui est en amélioration. Il y a une visibilité qui s'est très fortement accrue justement autour de ces technologies médicales. On en entend de plus en plus parler à la télévision, mais aussi dans d'autres circonstances. Il y a eu un certain nombre de rapports qui ont vraiment souligné ce que je viens de dire, c'est-à-dire justement ce défaut de société innovante, de passage entre des bonnes idées qu'on va trouver dans des laboratoires et puis des produits qui sont ensuite vendus par des sociétés françaises. Donc il y a eu le rapport de Jacques Lévinair sur ce sujet, il y a eu un autre rapport de l'Institut Montaigne, il y a eu un comité stratégique de filière qui s'est créé autour des technologies médicales, il y a eu la création d'une association qui s'appelle InnoTechMed, justement des créateurs d'entreprises ou des entrepreneurs dans ce domaine, et puis d'autres initiatives, et puis beaucoup de présence dans les médias. Par exemple, nous avons eu la chance d'avoir la visite du président de la République, ce qui permet justement de créer pas mal de bruit autour de ça. Alors, pour finir cette introduction, finalement, j'aimerais aussi vous dire que l'écosystème, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément le bon nom, de l'innovation dans le domaine de la santé est très, très complexe. Il y a plusieurs types d'acteurs dans cet écosystème. Il y a les gens qui vont financer l'innovation, donc des gens qui sont des investisseurs, mais aussi des gens comme vous qui peut-être avaient des portefeuilles d'actions et qui achetaient des actions de sociétés cotées en bourse. Il y a des catalyseurs. Alors, les catalyseurs, ce sont ceux qui vont innover, justement, donc les petites sociétés, les grandes sociétés, et puis les inventeurs, les médecins qui vont eux-mêmes avoir des idées nouvelles pour faire évoluer leurs pratiques. Il y a ensuite les clients, qui sont bien sûr d'abord les hôpitaux, les médecins, mais aussi les patients qui vont bénéficier de ces innovations. Et puis enfin, il y a toute une catégorie de gens qu'on peut mettre dans la catégorie des régulateurs, c'est-à-dire les gens qui vont établir les règles de commercialisation, de publicité et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les agences nationales de sécurité sanitaire, les agences réglementaires, les organismes qu'on dit notifiés qui viennent contrôler si tout est fait dans les règles qui sont bien sûr tout à fait nécessaires. Les sociétés savantes, dont a parlé le professeur Gelmisch aussi, qui vont établir les règles de la pratique de la médecine. Et puis les assureurs, donc la sécurité sociale en France, mais dans d'autres pays, ce sont des assureurs privés. Enfin, vous voyez qu'il y a énormément d'acteurs ici qui vont chacun avoir éventuellement des objectifs non concordants. Et donc on va avoir une très grande complexité d'interaction, et ça c'est un schéma que j'emprunte à un médecin qui a créé beaucoup de sociétés aux États-Unis. Et des schémas comme ça, il y en a une dizaine, je n'en montrerai qu'un, qui montre que finalement tous ces gens vont interagir de façon très complexe et que pour arriver à aligner tout le monde, et a finalement débouché sur une innovation qui peut vraiment trouver sa place dans le marché, eh bien, c'est fort compliqué et ça prend beaucoup de temps, d'où la situation actuelle. Alors voilà, je vais souligner deux mots-clés ici qui ont déjà été prononcés justement en introduction par le professeur Ayache, d'une part la collaboration. On ne peut rien faire tout seul, il faut collaborer avec des laboratoires académiques, collaborer avec d'autres sociétés, collaborer aussi avec tous les acteurs qui sont justement présents ici, donc bien sûr les médecins, mais aussi les patients, et ainsi de suite. Et puis il faut itérer, donc on ne peut pas du premier coup aboutir à une innovation qui va immédiatement répondre à un besoin parfaitement avec tout ce qu'il faut, tout ce qui a été énoncé aussi par le professeur Gelmisch. Il va falloir avoir de multiples itérations, ça va prendre du temps et beaucoup d'argent, d'où la nécessité de lever de l'argent. Voilà, donc finalement, pour revenir à notre histoire, au commencement, il y avait peu de choses. Il y avait à la fois une vision pluridisciplinaire, et ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est absolument essentiel, et vous avez compris que, par exemple, la collaboration que nous avons eue avec l'INRIA et le groupe de Nicolas Ayache a été absolument clé dans notre histoire. Il y a eu d'autres collaborations qui se sont établies plus tard et qui sont aussi très importantes. Bien sûr, il y avait un besoin médical qui a été très bien exprimé par le professeur Gelmisch, donc ce besoin de voir en temps réel, au niveau microscopique, dans des zones où soit on n'est pas capable de prendre de biopsie, par exemple les kystes pancréatiques, les voies biliaires qui ont été présentées, mais aussi dans des zones où, au contraire, les biopsies sont faites de façon aléatoire et on peut donc améliorer cette pratique. Mais il y avait surtout une feuille blanche. La feuille blanche, c'est que quand on crée une entreprise avec un projet disons très amont comme celui-là, eh bien, on ne sait pas du tout où on va. Enfin, je vous rassure, 14 ans plus tard, on ne sait plus vraiment où on va non plus. Mais en tout cas, au début, voilà, on va essayer de développer une technologie. On a des idées, bien sûr, sur ce que ça doit être, mais c'est une découverte quotidienne avec une suite d'épreuves, mais aussi de joie et de réalisation. Alors, surtout que nous avons vraiment développé une technologie de rupture. Et ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que le fait d'arriver à ouvrir une nouvelle fenêtre sur le corps humain et à proposer ces images qui n'existaient pas avant, ça pose un certain nombre de challenges qui ont été évidemment très, très importants dans notre vie et qui nous ont occasionné beaucoup de réflexions, de sang et de sueur. Alors, donc ça, je ne vais pas revenir sur ce que fait notre technologie. Je crois que vous l'avez maintenant compris. Hein. Le but, c'est de fournir aux médecins en temps réel, en complément, si elle existe, d'une image endoscopique ou bien un autre type d'image si cette image endoscopique n'est pas possible, de fournir en temps réel une image donc microscopique, endomicroscopique, et c'est cette combinaison souvent d'informations qui va être la combinaison gagnante en médecine. On trouve rarement finalement un seul outil qui va être suffisant pour arriver à un diagnostic final. C'est souvent une combinaison de différentes technologies, de différents types d'informations qui va permettre au médecin d'établir au mieux son diagnostic. Alors, la clé de notre innovation, et ça je crois que vous l'avez compris aussi, c'est qu'elle permet de faire d'une image microscopique non pas à la surface d'un tissu où vient se positionner nos mini-sondes, mais dans la profondeur du tissu. Et ça, c'est un mot qui a été prononcé plusieurs fois, qui est le mot confocal, qui est en fait une technique optique qui existait déjà, mais qui n'était pratiquée que sur des microscopes de table, des grands instruments qui prenaient beaucoup de place, qui n'avaient jamais été miniaturisés au point de tenir dans une mini-sonde d'un millimètre de diamètre et qui pouvait passer dans un endoscope ou d'autres vecteurs pour arriver jusqu'à un tissu, par exemple comme une aiguille ou un cathéter. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre innovation et qui a été possible grâce à une collaboration pluridisciplinaire entre des gens qui font de l'optique, qui manient des concepts avec des lentilles, des miroirs, des lasers, des choses comme ça, des fibres optiques, des gens qui font de l'électronique, donc qui vont piloter un certain nombre de choses, des miroirs qui vibrent, des miroirs résonnants, mais aussi des gens qui font du traitement d'image, c'est-à-dire, comme vous l'avez compris si vous suivez ce cours, à la fois de l'informatique, mais aussi des mathématiques de très très haut niveau. Et finalement, suivre ce cours de Nicolas Ayache, ça m'a permis de me souvenir de ce qu'on faisait et de voir que c'était assez compliqué. Vous avez vu que ce sont des concepts mathématiques de très haut niveau qui viennent alimenter des algorithmes qui permettent de réaliser des images maintenant tous les jours dans nos instruments. Donc, ces images qui vont, comme vous l'avez vu, distinguer différentes zones qui peuvent être dans différents stades de développement d'une pathologie, comme ici dans l'œsophage, comme vous l'avez vu précédemment, avec une facilité d'interprétation maintenant de plus en plus claire. Alors, je ne vais pas revenir sur toute la technique, vous l'avez vu, donc c'est ces techniques de balayage laser à travers ce qu'on appelle un torrent de fibres optiques. Donc j'ai juste reprécisé quelques chiffres. Donc nos mini-sondes qui font un millimètre à peine de diamètre ont effectivement, comme l'a dit Nicolas Yach, des milliers, c'est-à-dire 30 000 fibres optiques. Donc ce sont des fibres optiques de très petit diamètre qui font 2 microns de diamètre et qui sont donc balayées séquentiellement, comme vous l'avez vu, par un laser de très haute précision qui va donc s'injecter successivement dans chacune de ces fibres et qui va illuminer à l'extrémité distale de ce torrent de fibres, grâce à un jeu de lentilles, une zone dans un tissu située à une profondeur donnée grâce à l'arrangement des lentilles ici et qui vont donc créer, grâce à ce balayage laser, point par point, une image, puis une séquence d'images avec 12 à effectivement 18 images par seconde qu'on a vues sur ces séquences. Et donc, il y a tout un ensemble de mini-sondes différentes, des modèles différents qui vont s'adresser à différents organes et qui sont adaptés à l'observation de différentes pathologies dans différents organes. Voilà. Donc, ce sont des sondes qui vont généralement de 2 à 4 mètres de long. Souvent, on a besoin de cette longueur pour pouvoir s'introduire dans un endoscope et être confortable dans l'observation, et qui donc sont des éléments absolument uniques qui sont faits par un fabricant japonais sur mesure pour nous, après des années de travail en commun. Et elles peuvent avoir un diamètre, comme vous le voyez ici, qui peut être aussi petit que 0,8 mm. Donc, ce sont des sondes qu'on a presque un peu de mal à voir à l'œil nu et qui vont s'introduire, par exemple, dans des aiguilles, puisque ce qui ne vous a pas été forcément bien précisé, c'est que les superbes images que vous avez vues dans les kystes du pancréas sont réalisées à travers une aiguille. Donc, c'est de la microscopie à travers une aiguille d'un millimètre, et de la microscopie de très haut niveau. Donc, vous voyez que d'un microscope de table standard, on peut se représenter ces gros microscopes à un microscope par aiguille, il y a vraiment un saut technologique majeur. Alors, vous avez bien sûr aussi vu ces superbes images qui illustrent le traitement d'image, puisque, effectivement, comme l'a illustré Nicolas Yach, pour passer du signal brut à l'image, il y a un traitement qui est plus que nécessaire, puisque, évidemment, quand on regarde ça, on a du mal à s'imaginer qu'on puisse un jour interpréter ça correctement. Et je dirais que ça représente encore un mystère pour la plupart des gens qui essayent plus ou moins de développer des technologies similaires. C'est comment est-ce qu'on passe vraiment de ça à une image aussi propre que celle-là. Et encore, depuis, on a considérablement amélioré. Donc, tout ce traitement qui permet de retrouver le signal caché derrière tout ce torrent de fibres. Parce qu'en fait, ce que vous voyez ici, bien sûr, ce sont d'abord les images des fibres elles-mêmes. Vous voyez ces tout petits cœurs, ce sont les fameuses fibres de 2 microns de diamètre. Et donc, toutes ces collaborations pluridisciplinaires que nous avons eues au cours des années nous a permis d'imaginer des algorithmes de plus en plus complexes qui permettent de répondre à de plus en plus de besoins médicaux ou tout au moins d'essayer de s'adapter aux besoins des médecins. Et donc, c'est une image que vous avez aussi déjà vue, la fameuse image des mosaïques, qui permet en temps réel de, quelque part, pallier l'absence de champ de vue ou de large champ de vue de notre technologie. Forcément, c'est un microscope, donc ça voit un petit champ, et de créer ainsi ces mosaïques, et donc d'avoir plus d'informations, et avec la super résolution dont vous parlez, Nicolas. Donc, j'avais quand même envie de mettre une formule mathématique, même si je ne suis plus très sûr de la comprendre, donc il fallait qu'elle soit là. Mais bien sûr, ça vous a été expliqué en détail. Alors, quelque chose d'autre qui était vraiment un succès aussi dans cette collaboration, c'est les algorithmes de quantification. Vous avez vu nos deux images là-dessus, des algorithmes qui, par exemple, permettent de quantifier la vasculature et donc de calculer des densités capillaires fonctionnelles et ainsi de suite, qui vont être des informations qui peuvent aider à plusieurs choses, par exemple au développement de nouveaux médicaments pour quantifier l'effet de molécules sur certaines zones, ou bien tout simplement d'aider à un diagnostic dans le cas où justement l'aspect vasculaire est un aspect clé du diagnostic. Typiquement, nous avons une collaboration avec des gens qui travaillent dans le domaine des soins intensifs et qui s'attachent à regarder justement la vascularisation, qui est un signe important justement de l'état du patient qui est en soins intensifs. Alors voilà, donc ça c'était sur la partie un peu scientifique et technique pour rappeler un peu le décor. Ensuite, il y a l'aventure industrielle. L'aventure industrielle, c'est comment est-ce qu'on passe d'un laboratoire de recherche, même industriel, donc situé à Paris, dans le 10e arrondissement, où on développe des technologies, comment est-ce qu'on passe de ça à un produit qui doit avoir tout un ensemble d'homologations, parce qu'on est dans un domaine extrêmement réglementé, mais bien sûr un produit qui a dû prouver sa valeur clinique, donc qui a dû montrer aux médecins qu'effectivement, ce n'était pas juste une technologie intéressante, mais une technologie utile. Donc tout ça, c'est une très très longue route semée d'embûches, et avec en plus un code de la route qui change au fur et à mesure. Donc c'est ça qui est très difficile, c'est qu'il faut être adaptatif, puisque en permanence, il va y avoir soit des réglementations qui changent, soit tout simplement des demandes de la part à la fois des systèmes de santé ou des hôpitaux. Typiquement, il y a 20 ans, quand on développait une innovation médicale majeure, la plupart des hôpitaux s'en équipaient, parce que c'était important de s'équiper des dernières innovations et qui étaient bien sûr homologuées et qui avaient déjà montré qu'elles fonctionnaient sur les patients. Aujourd'hui, ça ne suffit pas du tout. Les hôpitaux vont regarder chaque euro dépensé et avant de s'équiper, ils veulent savoir beaucoup, beaucoup de choses. Et ça va bien sûr de la validation clinique extrêmement poussée d'une technologie à sa validation médico-économique. Donc le professeur Galmisch vous a montré effectivement l'importance des études médico-économiques. Je le souligne, aujourd'hui, un système de santé doit savoir qu'un nouvel instrument ou une nouvelle technique va être à la fois meilleur pour les patients, mais aussi peut-être moins cher ou au moins ne pas coûter plus cher qu'une autre technologie. Alors, cette route, elle est semée d'embûches et puis elle part vraiment de très très loin puisque voilà, la première image qu'on a réalisée avec notre technologie, c'était en 2001, c'était une prouesse. C'était à l'occasion d'un cocktail qu'on donnait pour nos investisseurs et on n'avait absolument rien à leur montrer parce qu'on n'avait pas du tout réussi encore à développer notre technologie. Et par miracle, François Lacombe, notre directeur scientifique, a trouvé comment brancher notre techno sur un oscilloscope et a créé une image qui était vraie, hein, ce n'était pas une fausse image. Mais bon, on s'est dit que ça va être une catastrophe. Puis tout le monde a été très impressionné de cette image, donc voilà, ça a marché. Cette image, en fait, ce qu'on voit, c'est une mire calibrée où il y a des tout petits traits qui sont en fait séparés de quelques microns. Et donc, on prouvait le concept qu'on pouvait faire de l'imagerie microscopique. Mais on était encore très loin d'un produit. Alors, ensuite, ça s'est transformé en cette machine pas très jolie. Et encore aujourd'hui, je ne peux plus savoir pourquoi est-ce qu'il y avait une clé. Mais il y avait une clé. C'était visiblement une clé de démarrage. Je ne sais pas ce que ça démarrait, mais il y avait une clé. Et puis, en plus, ça tournait sur un ordinateur avec Windows, qui était vraiment impossible pour nous. Ensuite, voilà, c'est devenu des trucs où les médecins ont joué un peu avec. Ce n'est pas du tout nous qui avions fait ce chariot, mais on a commencé à le mettre dans des hôpitaux pour faire des tests. Et puis voilà, ensuite, on a eu enfin quelque chose qui commençait un petit peu à ressembler à un produit. Et finalement, il a fallu attendre 2011 pour avoir quelque chose qui n'est pas forcément très esthétique, mais au moins qui ressemble à ce qu'on trouve dans une salle d'endoscopie et qui permet aujourd'hui à des médecins de travailler en routine, c'est-à-dire on n'est plus à l'époque des pionniers qui acceptaient d'utiliser ce que je vous ai montré dans les diapositives précédentes, mais qui sont des médecins qui ont besoin d'avoir quelque chose d'utilisable facilement chaque jour. Et donc, grâce à ce développement, on a pu rendre la biopsie optique donc accessible à la fois des voies digestives, mais aussi dans d'autres voies, et je vais vous parler de ça maintenant dans quelques minutes. Alors effectivement, je compare ici les deux instruments dont vous a parlé le professeur Galmisch. Notre but, c'était que la biopsie optique puisse avoir lieu dans le plus d'endroits possible, d'où le choix de faire ces mini-sondes très petites qui peuvent rentrer dans la plupart des endoscopes et se retrouver dans la plupart des endroits dans le corps humain. Et deuxièmement, que ça soit particulièrement facile d'utilisation, c'est-à-dire en particulier qu'il y ait une fréquence de 9 à 18 Hz, effectivement, qui permet d'avoir une grande stabilité de l'image. Car si vous avez une très belle résolution, mais que malheureusement l'image n'est pas stable, eh bien, c'est beaucoup moins facile à utiliser concrètement. Donc tout ça nous a permis d'avoir une situation aujourd'hui où effectivement, tous les jours, des médecins dans de très nombreuses villes dans le monde, très nombreux hôpitaux, plusieurs centaines, sont capables de combiner à la fois leurs techniques endoscopiques standard ou avancées, telles qu'elles vous ont été présentées, et les techniques d'endomicroscopie pour améliorer leur procédure. Donc cette communauté d'utilisateurs, elle est absolument clé pour nous. Ce sont des médecins qui sont bien sûr à la fois à la pointe de la médecine, mais aussi très intéressés par l'emmener encore plus loin. Donc c'est une communauté que nous réunissons tous les ans, maintenant, depuis 6 ans, dans une conférence internationale d'utilisateurs qui est devenue vraiment une conférence reconnue comme d'une très grande qualité scientifique. On avait 260 personnes qui se sont réunies début avril, en Provence, et qui sont un groupe multidisciplinaire maintenant de gens provenant de différentes spécialités médicales et qui ont discuté pendant 2 jours et demi des applications actuelles et futures de l'endomicroscopie dans différentes spécialités. Et puis, il faut aussi mettre en place tout un système éducatif, de formation, parce que le Smart Atlas dont on vous a parlé n'est pas encore là, donc il faut encore, bien sûr, former les médecins, et il faudra toujours. Et donc, nous avons différents outils, dont, par exemple, un site web totalement gratuit et éducatif qui permet aux médecins de venir apprendre et ensuite tester leurs connaissances. Donc, maintenant, nous en sommes peut-être à une croisée des chemins. Nous avons déjà réussi un certain nombre de choses, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Mais surtout, il y a une vision à poursuivre. Notre vision, eh bien, c'est que la biopsie optique, et vous reconnaissez cette diapo que vous avez déjà vue, a des applications dans l'ensemble du corps humain. Donc, elle n'est pas limitée à quelques applications qui vous ont été décrites. Et donc, l'idée, c'est de faire des choix pour, phase par phase, arriver à montrer qu'effectivement, nous pouvons améliorer des techniques diverses et variées dans l'ensemble du corps, à la fois dans des organes creux, dont on a beaucoup parlé, ceux qui sont accessibles par endoscopie, mais peut-être aussi des organes pleins auxquels on peut accéder, par exemple, avec cette fameuse aiguille dont je vous parlais, qui peut rentrer dans un tissu plein. Alors, je vais vous donner 2 exemples donc de diversification dans le domaine de l'endoscopie pulmonaire, donc ce qu'on appelle la bronchoscopie. Le but ici, c'est d'aller, par exemple, regarder des nodules périphériques pour essayer de les caractériser. Donc, des gens qui ont subi un examen, par exemple, dans un scanner et sur qui on découvre un nodule périphérique, il faut ensuite aller le caractériser, savoir si c'est un nodule bénin ou un nodule malin. Eh bien, nous avons aujourd'hui une possibilité peut-être de faire ça avec le Cellvisio. Ici, je vous montre ici une séquence dans le domaine de bronchite. Donc, ce sont des alvéoles pulmonaires qui sont observés avec notre technologie. Et donc, c'est la lumière naturelle, la lumière fluorescente des alvéoles pulmonaires qui font ces très belles images microscopiques qui n'avaient jamais été vues auparavant. Donc, on ne savait pas finalement à quoi ressemblaient les alvéoles pulmonaires in vivo avant le Cellvisio. Et donc, pour ce ciblage nodule périphérique, eh bien, nous combinons le Cellvisio avec d'autres technologies existantes de navigation et nous apportons une visualisation essentielle à la technique pour savoir si la cible qui est le nodule périphérique a été atteinte et qu'on est bien sur ce nodule qui est cette masse fibreuse ou bien est-ce qu'on l'a raté et on est en fait à côté et donc prendre une biopsie mènerait à un examen raté. Donc là, nous allons permettre au médecin d'améliorer le rendement de son examen et d'avoir cette information absolument clé qui lui permet de se repositionner et de prendre une biopsie au bon endroit. D'autres applications dans le domaine pulmonaire sont par exemple dans le domaine de la transplantation pulmonaire où faire des biopsies physiques est nécessaire mais très dangereux parce que souvent les patients sont très sensibles au saignement et peuvent malheureusement décéder si des saignements interviennent. Et donc si on arrive à remplacer la biopsie physique par de la biopsie optique pour le suivi des patients transplantés, ça peut représenter un gain fantastique pour ces patients. D'autres applications excitantes sont dans le domaine de la chirurgie robotisée, dont on a un peu parlé. Ici, c'est avec un autre robot qui est déjà existant, qui est un robot qui s'appelle le robot Da Vinci et qui permet d'aider le chirurgien à réaliser des procédures complexes. Par exemple, ici, l'ablation de la prostate. Eh bien, dans le domaine de l'ablation de la prostate, il y a 2 problèmes essentiels. Est-ce qu'on peut réussir à ne pas couper les nerfs qui sont essentielles au fonctionnement de différentes fonctions essentielles pour l'homme, mais aussi, éventuellement, à surtout ne pas laisser des marges de cancer positives, c'est-à-dire des traces de cancer qui vont mener à des récidives. Et bien, récemment, des médecins se sont entre guillemets, amusé à introduire une sonde du Selvisio dans ce robot chirurgical et à réaliser en temps réel des images des terminaisons nerveuses sur la prostate et de leur environnement pour pouvoir justement déterminer si on avait encore des marches cancéreuses et si on pouvait disséquer autour des terminaisons nerveuses. Donc vous voyez que, en conclusion, finalement, en résumé, la biopsie optique se situe à la croisée des chemins de la médecine moderne, l'endoscopie, qui est la technique maintenant absolument de référence pour la chirurgie minimalement invasive, la microscopie, qui est essentielle pour pratiquer l'histologie, donc maintenant, en temps réel avec la biopsie optique, l'imagerie avec qui elle peut être combinée, et donc tout cet ensemble de domaines peut être adressé. Alors, où est-ce que nous allons ? Eh bien, nous allons toujours plus loin. Voilà typiquement là où nous pouvons aller. Le professeur Gelmisch a parlé de cette combinaison avec des marqueurs. Eh bien, on peut aller plus loin encore avec une imagerie microscopique in vivo, mais à plusieurs couleurs. Donc ça, c'est un instrument qui existe déjà, qui est un de nos instruments, qui est vendu aujourd'hui à des chercheurs et non pas à des médecins. Donc on est encore dans le domaine de la recherche et on va pouvoir arriver à distinguer avec ces deux couleurs et ces marqueurs moléculaires qui sont mis sur les tissus, eh bien des choses complètement différentes. Par exemple, ici, vous voyez la vascularisation, donc on voit le flux sanguin, et ici, l'endothélium, ou encore, ici, la vascularisation des reins avec les tubules rénales qui sont marqués par un autre marqueur. Donc ça, un jour, on pourra le retrouver sur l'homme, et on va petit à petit passer donc, des biopsies physiques qui sont, comme on vous l'a expliqué, souvent prises au hasard, qui sont invasives, qui peuvent être chronophages, source aussi de coûts importants et puis d'inefficience, à des nouvelles techniques, une nouvelle donne qui permettra aux médecins, aux chirurgiens, en temps réel, d'avoir plus d'informations pertinentes avec des marqueurs moléculaires, de l'imagerie vraiment fonctionnelle qui permettra d'améliorer considérablement et peut-être, espérons, le développement d'un nouveau gold standard qui sera utilisable par l'ensemble des médecins et qui permettra une meilleure efficience de tout ça. Alors, par exemple, on pourrait imaginer que cet instrument aujourd'hui qui a l'aspect qu'il a, eh bien, se transformera complètement et s'intégrera dans des salles d'imagerie et de chirurgie du futur où on trouvera à la fois dans une salle d'opération des systèmes d'imagerie avancés et donc quelque part la possibilité de faire une biopsie optique et donc de passer de ce système actuel, un système beaucoup plus efficace pour les médecins et les chirurgiens. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup.